Bonjour à tous. Je crois que je n'ai pas besoin d'introduction aujourd'hui. C'était fait la semaine dernière avec Luc. Prendre le moment de rattraper un peu qu'est-ce qu'il a dit. C'est vraiment important, c'est intéressant. Et ça donne un sens de le livre de Jean. Mais aujourd'hui, on va finir le reste de le premier chapitre. Et la première partie de Jean, c'était une partie de mes versets préférés. Je suis anglicaine sur mon basse. Et à Noël, chaque année, cette première partie de Jean était partagée pour nous. C'est un moment de remembrance, ce qui a passé à Noël. Dieu est venu en forme d'homme à Jésus et il est né et il est venu pour nous sauver. Et c'est aussi important de voir l'ignorance de la race humaine à ce moment. Ils ont raté le venu de Christ. Dieu était là, en forme d'homme, ils n'en ont vu pas. Ils ont manqué quelque chose. Et le livre de Jean nous pousse à réfléchir sur le nom de Jésus que Jésus s'est donné, ou plutôt sur l'identité de Jésus. Et je pourrais développer davantage ce que Luc a décrit, la semaine dernière, mais j'espère que vous avez tous bien suivi la première partie. Est-ce qu'il y a des diapos qui vont arriver? Je vais commencer avec les versets 6 à 8 qui parlent de Jean le Baptiste. Il n'était pas l'auteur de ce livre, mais il est une partie dans le début de ce livre. Et il a un rôle très important pour mettre en lumière le fait que Jésus était le sauveur du monde. Nous nous interrogeons souvent sur le petit rôle que Jean-Baptiste a joué dans ses premières années. C'était intéressant. Et dans ce cas, Jean, l'auteur de le livre, Jean, il était un disciple de Jean-Baptiste. Et il a rencontré Jésus, le Christ, ici. Et c'est probablement la raison pour laquelle Jean, le disciple, parle de Jean le Baptiste de cette manière. Il était vraiment clair, les choses qu'il a dit, c'était précis. Mais pourquoi Jean baptisait-il les gens? Pourquoi les responsables juifs et les prêtres à ce moment sont-ils descendus pour le voir et découvrir ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait? Les versets 6 à 8, et on n'a pas beaucoup de temps, mais ils ont affiché là, nous disent qu'il est venu en tant que témoin. Ça, c'est pourquoi Jean-Baptiste était là. L'une des raisons les plus importantes est la manière dont il faisait et les personnes qu'il baptisait. Jean-Baptiste, tous ceux qui entendaient son appel, à se préparer à la venue du Seigneur, pour se purifier en vue de la venue du Seigneur. Selon le coutume juif, les Juifs ne se faisaient jamais baptiser de cette manière. C'était un peu étrange. Un gars, à côté de la rivière, avec les Juifs, ils baptisent dans l'eau. C'était pas commun, pas normal. Et la raison, c'était plutôt cette manière de baptiser quelqu'un était réservée pour les gentils qui voulaient devenir juifs et qui renonçaient à leur ancienne vie pour devenir juifs. Mais Jean baptisait des juifs. Ce qui attire l'attention des anciens et des prêtres juifs. Ils voulaient savoir en vertu de quelle autorité il baptisait et il a ni être le Christ, il a ni être Élie, il a ni être un prophète. Il a dit en substance, je ne suis personne et je n'ai aucune autorité à vos yeux. Mais je prépare le chemin pour quelqu'un de grand. Il est si important que je ne suis même pas digne d'attacher ses sandales. Il s'agit là aussi d'une phrase intéressante. C'est le coutume à ce moment. Les prêtres avaient une série de disciples et chacun d'entre eux avait pour rôle de faire des choses pour le prêtre. Et la tâche qu'ils accomplissaient était liée à leur niveau d'autorité ou hiérarchie. Jamais aucun de ses disciples n'attachait les sandales du prêtre, car cette tâche était considérée comme trop bas pour eux. Mais Jean-Baptiste a dit, je n'ai pas le droit de le faire, mais il baptise les gens. Et il a choisi cet terme d'être clair avec les gens à ce moment. Un véritable esclave devait étacher les sandales des prêtres. Vous pouvez donc imaginer ce que les prêtres ont dû penser. Qu'est-ce que c'est ce gars? Qu'est-ce qu'il fait? Ils descendent au bord du fleuve, voient les dizaines de gens qui se tiennent autour de Jean, un groupe de disciples de Jean aussi. C'était assez grand et assez important pour être remarqué. Ce n'est pas quelque chose qui était caché. C'était grande. Et puis, Jean le dit qu'il n'a aucune autorité, qu'il prépare le chemin pour quelqu'un de grande et qu'il est moins digne de le plus bas des esclaves, qu'il n'a même pas le droit d'attacher ses sandales. Cela a dû les déconcerter grandement et ils ne savaient probablement pas quoi faire. Mais il a prêché de Jésus, il a baptisé, mais il a dit, j'ai pas le droit parce que Jésus est le plus grand. Si nous passons au verset 29 jusqu'à 34, Jésus descend rendre visite à Jean. cet échange est lui aussi un peu particulier. Jean témoigne de Jésus. Jésus a déjà été baptisé. Il n'a pas venu d'être baptisé, c'était déjà passé. On pense Jean, l'auteur, a rencontré Jean-Baptiste après le baptême de Jésus. Ça, c'est pourquoi il n'a pas parlé. Jean a déjà vu le colombe descendre sur Jésus lors de son baptême. Et c'est le signe que Dieu lui a donné pour reconnaître Jésus. Il était donc en train de baptiser des gens quand, levant les yeux vers la foule, il aperçoit Jésus qui s'avance vers lui. Il prononce ces mots. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jésus n'avait pas commencé son ministère. Il a fait rien, presque rien, à ce moment. Mais Jean-Baptiste a déclaré, « Voici l'agneau de Dieu. » Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la révélation de Dieu. Il avait été témoin de l'agneau et qu'il avait entendu la voix du ciel qui avait dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » On peut trouver ces versets en Matthieu 3, 17. Pourquoi Jean ne l'a-t-il pas simplement appelé le Fils de Dieu? Ça, c'est la chose que Dieu a dit. Non. Jean était allé plus loin. Non seulement en raison de la révélation qu'il avait reçue de Dieu, mais aussi parce qu'il comprenait la mission de Jésus. Ainsi, les mots choisis ne parlent pas seulement de qui il est, mais aussi de la vocation de Christ sur terre. Si nous regardons à nouveau la culture juive, l'agneau avait une place important. Il servait de sacrifice à Dieu dans de nombreux cas. Il était tué et déposé devant Dieu sur l'autel. Il a été tué lors de la Pâque et, si vous vous en souvenez, son sang était peint sur le linteau pour empêcher l'ange de la mort de rentrer dans la maison. Il existe de nombreux exemples d'agneaux sacrifiés dans la Bible. Et Jésus a rempli le rôle de l'agneau dans sa mort. Il est mort en tant que sacrifice pour notre péché. Il a enlevé notre péché. C'est-à-dire qu'il a enlevé le péché, de nous. Il a porté notre péché. Notez que je l'utilise la forme singulière de péché. C'est écrit là aussi. C'est en forme singulière. Il n'a pas pris un morceau de cet péché, un morceau de ça, de ça. Il a pris toute la péché. C'est comme dans un grand sac. En une seule chose, il a pris nos péchés. Notre péché. Il n'a pas laissé rien. Il a pris tout. C'est après ça, cela que Jean témoigne à toutes les personnes présentes qu'il a vu le colombe et qu'il s'agit bien de Christ, de l'homme qu'il a prêché et pour lequel il a préparé le chemin. Il s'adresse à ses disciples et à ceux qui sont descendus au bord du fleuve pour l'écouter et se fait baptiser. Et il dit des choses très fortes. Il n'a pas mélangé ses mots. Il est allé droit au but. Il a dit que même s'il savait qu'il était plus vieux que Jésus, parce qu'il était né avant Jésus, on le sait, il a dit ce Jésus transcendait les temps puisqu'il existait avant lui. Il était clair avec ça. Il disait qu'il ne fallait pas se laisser tromper par ce qu'il envoyait devant soi, mais qu'il fallait savoir que cet homme était là depuis toujours. Que tout avait été créé après lui. Il se réfère à lui en tant qu'homme. Jésus était un homme. Important, très important à noter, un point très important à noter. Oui, littéralement, devant les peuples, il était en forme d'homme, comme nous. Mais, dans le contexte de ce qu'il disait, être un homme signifie que Jésus était descendu sur terre en tant qu'homme. Pour être parmi nous, pour vivre avec nous. Et il dit que Jésus baptisera avec le Saint-Esprit. Et pas seulement avec de l'eau, comme le faisait Jean. Et que lui seul pouvait le faire parce qu'il était le Fils de Dieu. C'est le lendemain, je crois, oui. C'était le lendemain. Jean est de nouveau au bord du fleuve. Il n'a pas arrêté. Il est toujours en train de baptiser les gens. Il voit Jésus encore et se répète, « Voici l'agneau de Dieu. » À côté de lui se tiennent deux de ses disciples, Jean et André. Et il se passe quelque chose d'étonnant. Ces deux disciples décident de le quitter et de suivre Jésus. Il n'est pas dit, mais nous pouvons comprendre certaines choses qui se sont passées à ce moment-là. En premier, les disciples avaient compris et cru ce que Jean avait dit, le veille. Deuxièmement, ils voulaient le vrai effet. Pourquoi se contenter d'un rôle de figurant quand on peut être proche ou fait partie de l'acteur principal? Ils ont été convaincus par le témoignage de Jean. Et le moment venu, ils ont décidé de le suivre. Bien que cela ne soit pas expressément écrit, ils auraient demandé la permission de Jean. Ils n'ont pas juste quitté. Et Jean, tel qu'il était, l'acceptait, car il n'était pas intéressé à amasser les gens vers lui, mais plutôt à les diriger vers le Christ. Jésus remarque alors qu'il le suit et le demande, « Que cherchez-vous ? » Non pas ce que vous voulez, mais plutôt ce que vous cherchez. La bas est très différent. Et c'est la même question que le Christ nous pose aujourd'hui. Que cherchez-vous? Il veut connaître vos désirs le plus profond. Et c'est ce qu'il a demandé Jean et André. Étaient-ils motivés par une pure curiosité à l'égard de cet homme dont Jean-Baptiste avait parlé, ou étaient-ils motivés par un réel désir d'apprendre à le connaître? Ils ont demandé à faire partie de sa vie. Et la façon dont Jésus ancien était à travers les gens qui vivaient avec lui. C'est pourquoi ils ont demandé « Où vous habitez ?» Parce qu'ils ont besoin de vivre avec lui pour le connaître, pour apprendre les choses. Et André et Jean ont ensuite passé la journée avec Jésus. Cela a dû être une journée incroyable, car Jésus a mis de côté tout ce qu'il avait prévu de faire et a passé le temps avec eux. La première chose qu'André fait est d'aller chercher son frère. Il a un caractère et qualité extraordinaire. Il vient souvent avec les gens à Jésus. Et il ne voulait pas que son frère passe à côté de ce qui se passe, ou plutôt qu'il devienne un disciple de Jésus. André incarne ici ce que devrait être là. L'évangélisation, dire aux gens qu'ils ont trouvé le Messie, le Christ, Jésus. Ils arrivent à son frère et disent, nous avons trouvé le Messie. C'est tout, ce n'est pas un grand discours. Ça, c'est la vraie évangélisation. Et après, il a amené à Jésus. Un bon exemple pour nous dans l'évangélisation. Le simple témoignage d'André, nous avons trouvé le Messie, a suffi à convaincre son frère. Lorsqu'André amène Simon-Pierre à Jésus, celui-ci regarde et prononce des paroles intéressantes. « Tu es Simon, fils de Jean. On t'appellera Kephas. » Je ne suis pas sûr de la dernière fois que j'ai rencontré quelqu'un et je lui dis « Tu ne ressembles pas à Farid. » Tu es plutôt un rocher. Pourquoi Jésus a dit ça? Le nom d'une personne fait aussi partie de son identité. Et nous avons une tendance à nous identifier par notre nom. Quelque chose qui appartient au passé, c'est notre marque. Je suis Andrew, c'est moi. Mais Jésus a regardé Simon et lui a dit, « Non, tu n'es pas Simon, mais plutôt Céphas, rocher. Voici ce que tu es maintenant, mais aussi ce que tu viens d'être si tu restes avec moi. Jésus nous ne regarde pas et nous ne voit pas tel que nous nous tenons devant lui. Andrew porte une chemise jaune, des jeans, mari de Meghan, 4 enfants, je travaille pour une société anglaise, etc., etc. Jésus ne voit pas que ça. Il voit notre avenir. Il voit beaucoup plus. Il voit ce que nous deviendrons en lui. Nous sommes-nous laissés transformer par la parole de Dieu, par l'enseignement de Dieu? Nous voyons-nous pour notre passé, ou plutôt pour notre identité en Jésus? Juste vite fait, je vais passer ça, on est en retard, désolé. Il a rencontré Philippe. Non, il a trouvé Philippe. Il était dans la région, il a cherché Philippe. C'est important pour nous. Ça souligne que le Christ vient nous chercher. Ça, c'est son caractère. Il vient de nous chercher. Et peu importe où vous êtes, ou ce que vous faites, le Christ se présentera et vous appellera. Je pense que c'est une pensée réconfortante. C'est la seule chose qu'il a dit, viens avec moi, venez avec moi. C'est tout. Il a déjà préparé la voie pour vous. Viens avec moi. Il vient de te chercher. Et si vous avez quelqu'un que tu as prié pour, vous avez prié pour quelqu'un d'être avec Dieu, il est toujours en train de le chercher. Il n'arrête pas. Ça, c'est son rôle. Et un jour, il va arriver et il va dire, viens avec moi. La dernière partie, c'est l'histoire de Nathaniel. Philippe, après 3 mots, viens avec moi. Il était convaincu et il est immédiatement allé partager la nouvelle avec Nathaniel. La réponse de Nathaniel est intéressante. Le scepticisme. On va rencontrer ça. Mais il n'a pas pris le moment d'essayer de convaincre. Il lui à suggérer de venir voir par lui-même ce qu'il a fait. Et Jésus connaissait le scepticisme de Nathaniel et il lui a fait un compliment. Mais comme nous avons vu précédemment, Jésus nous regarde différemment et il a vu ce que les autres ne voyaient probablement pas. Voilà qui a éveillé l'intérêt de Nathanaël. Et son retour est surprenant. Comment sais-tu cela de moi? Et Jésus continue à surprendre Nathanaël et décrivant l'endroit où il se trouvait. Sous un figuier, probablement en train de méditer les Écritures. Cela montre également qu'il se préoccupait des Écritures et qu'il les étudiait pour les comprendre et rechercher la vérité. Il avait les Écritures sur son cœur. Jésus n'a pas eu besoin de dire grand-chose pour convaincre Nathanaël de son identité. Philippe avait fait allusion à l'identité de Jésus, mais deux simples déclarations ont suffi pour que Nathanaël soit convaincu que ce que Philippe avait dit était vrai. Pour moi, cela nous dit que lorsque Jésus parle, nous devons écouter. Ensuite, nous voyons que Jésus dit quelque chose d'assez poignant à Nathanaël. Et nous avons parlé un peu de ça ce matin, la gloire de Dieu. Si tu penses ça est formidable, c'est incroyable, reste avec moi, tu vas voir la gloire de Dieu. Et c'est pareil pour nous tous. On a l'exemple, et j'en ai utilisé cette phrase souvent pendant le livre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il expliquait ça avec cette image. Et pour Nathanaël, c'est probablement cette écriture qu'il était en train d'étudier sous le figuier. Quand Philippe est arrivé. Et ça, c'est probablement pourquoi Jésus a dit ou a utilisé cette écriture. Parce que c'était frais dans son tête. Ou peut-être c'était une de son versets préférés, on ne sait pas. Mais il donne quelque chose pour lui. Et donc, j'arrive à la fin de chapitre 1. Et je vous laisse avec quelques points importants à retenir. Premièrement, Jean savait, sans l'ombre d'un doute, que le Christ était le Fils de Dieu. Il était Dieu fait homme pour venir vivre sur cette terre avec nous. Et que la raison de sa venue était d'ôter tous nos péchés pour sauver ce monde. Deuxièmement, lorsque nous entendons la vérité de Dieu et que nous la partagions, des vies sont changées et des gens sont amenés à lui. Troisièmement, le Christ ne nous voit pas comme nous voyons nous-mêmes, mais plutôt comme la personne transformée que nous sommes appelés à devenir. Nous ne devrons donc pas permettre à ce que nous sommes de nous retenir, mais plutôt être encouragés à être transformés par la parole de Dieu en ce que Dieu nous appelle à être. Et enfin, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il cherche les perdus, qu'il est à leur recherche. Donc si vous avez un être cher ou quelqu'un pour qui vous priez et espérez qu'il soit sauvé, n'abandonnez jamais, ne vous découragez jamais. Car Jésus la cherche et le trouvera. Merci beaucoup. Sois béni.
Merci à vous.